Bonjour à chacun. C'est pour moi une grande joie que de pouvoir, avec vous, méditer autour de la parole de Dieu qui est si riche. Mais avant d'ouvrir nos Bibles, il faut que je vous raconte quand même une petite histoire pour introduire ce sujet. Nous n'étions pas encore mariés. Cathy, ma fiancée, était venue chez moi. Il faisait beau et Cathy se plaint d'avoir un petit peu mal à la tête. Alors moi, il y avait plein de bois à côté de chez moi, je lui propose, on n'a qu'à aller faire un petit tour dans les bois. Le grand air te fera du bien. Proposition qu'elle accepte. Donc Cathy et moi, nous partons et avec nous, j'emmène mon chien. Mon chien qui était un chien de... Voilà, un chien de recherche, un chien de sauvetage. Et vous verrez que ce petit détail a une importance dans la suite de l'histoire. Nous avions parcouru, donc c'est le même décor, dans à peu près le même contexte que la semaine dernière. Nous avions parcouru quelques centaines de mètres, quand à un moment je me retourne et je distingue au loin derrière nous une silhouette d'une femme habillée en rouge très vif qui se cache derrière un arbre. J'ai dit à Cathy, c'est bizarre, il y a une femme qui est cachée derrière un arbre et qui nous observe. Et c'est bizarre parce qu'elle est habillée en rouge vif. Si elle voulait se cacher, elle ne s'habillerait pas comme ça. Et puis je ne prête pas spécialement attention. Nous parcourons encore quelques centaines de mètres. Et puis là, je me retourne. Mais cette fois-ci, je distingue au loin, non plus une, mais trois silhouettes qui se dissimulent derrière les arbres. Cette fois-ci, je ne dis rien à Cathy afin de ne pas l'inquiéter. J'essaie de comprendre ce qui se passe et je me tiens sur mes gardes, aux aguets. Et j'observe discrètement mon chien qui va et qui vient en liberté et qui va, entre autres, du côté où les personnes se cachent derrière les arbres. Et je me dis... C'est étrange, il ne leur aboie pas dessus. Il doit être trop occupé à poursuivre les lapins qui pullulent dans ses bois. Il doit être tellement occupé qu'il ne se rend même pas compte que leur comportement est suspect. Puis nous continuons à avancer. Et puis, ces bois, je les connaissais par cœur. Et là, il y a quelque chose qui n'était pas comme d'habitude. Et j'ai la conviction que devant nous, il y a également quelqu'un de caché. Nous sommes pris dans une sorte d'étau, une sorte de piège. Et ne sachant pas trop comment la situation allait évoluer, ce coup-ci, j'en informe Cathy, de façon à ce qu'elle soit préparée. Alors je ne savais pas trop préparer à quoi. Mais en tout cas, des inconnus tramaient quelque chose contre nous et il fallait nous préparer à toute éventualité. Et malgré, moi j'étais un peu inquiet, mais je ne le montrais pas. Mais malgré ce que je viens de révéler à Cathy, Cathy ne semble, elle, pas spécialement inquiète. Et je me dis, c'est étonnant. Elle ne s'inquiète pas. Elle ne doit pas bien comprendre que nous sommes dans une situation délicate. Nous étions probablement dans une sorte, l'objet d'une sorte de jeu, les jouets d'un mauvais jeu. Et moi, ce jeu ne m'amusait plus du tout. Il fallait que ce jeu cesse. Et pour mettre fin à tout cela, je disposais d'un atout extraordinaire, d'une arme absolue, mon chien Jéricho. S'il y avait, comme je le pensais, quelqu'un de caché devant nous, qui que ce soit, quel que soit l'endroit où cette personne se cachait, mon chien allait la trouver et mon chien allait l'obliger à sortir de sa cachette. Personne ne reste caché quand 45 kilos de muscles, de crocs, de détermination vous pousse du museau en vous envoyant dessus. J'appelle donc mon chien, je l'oriente dans la direction où je pense qu'il y a quelqu'un et je lui donne l'ordre de travailler. Mon chien bondit en avant et immédiatement je vois qu'il accroche une odeur humaine. Je suis mon chien des yeux, je le vois remonter de plus en plus vite et il fonce derrière un arbre. Non, c'est un peu comme si un missile à tête chercheuse atteint sa cible. Sauf que le missile, il explose Et mon chien, il aboie. Du moins, il devrait aboyer. Parce que mon chien, qui est à moitié dissimulé derrière un arbre, je ne sais pas trop ce qu'il est en train de faire. Mais en tout cas, il n'aboie pas. Qu'est-ce qui se passe? Et là, je vois mon chien qui revient vers moi, l'air heureux et un peu bête, en dandinant de la tête, parce qu'il est en train de mâchouiller une balle de tennis. Alors, quand vous êtes maître chien, voyez ça, vous êtes comme ça. Mais là, je comprends ce qui s'est passé. Une balle de tennis, c'est une des deux récompenses que mon chien reçoit lorsqu'il retrouve quelqu'un. La personne qui se cache derrière l'arbre devait avoir une balle de tennis sur elle. Mon chien a trouvé la balle en même temps que la personne, s'est servi. Dans sa tête, c'était sa récompense. Et là, je me dis, ce n'est pas de chance. Car cela implique que mon chien, déjà, a accepté d'être récompensé par un inconnu, chose qu'en principe, il aurait dû refuser. C'est même vraiment pas de chance. En principe, enfin, je ne sais pas vous, en principe, vous ne vous promenez pas dans les bois avec une balle de tennis. Mais comme il y avait des cours de tennis tout autour de ce bois, je me dis, la personne qui se cachait, dans un fourré, elle a dû trouver la balle, elle l'a prise avec elle, et mon chien, lui, il l'a récupérée. Vraiment, vraiment, pas de chance. Et là, je me demandais si je devais à nouveau lancer mon chien. Quand au bout du chemin, je vois apparaître les trois silhouettes qui jusqu'à présent se cachaient derrière les arbres. Elles viennent vers nous, et là, je crois reconnaître une des silhouettes. Et je dis à Cathy, c'est marrant, on dirait Sophie. Sophie, notre amie. Et quelques secondes après, je reconnais que c'est effectivement Sophie, accompagnée de deux de mes amis proches. Et derrière l'arbre, là où mon chien avait fait son petit cirque, là, surgit un quatrième ami, un pompier maître chien. Et mes amis venaient à découvert, parce que eux, ils étaient convaincus qu'ils n'avaient plus besoin de se cacher, que ça faisait bien longtemps que j'avais compris ce qui était en train de se dérouler. Sauf que moi, je n'avais rien compris du tout. Depuis le début, j'aurais pourtant dû comprendre ce qui se passait. Mais cela n'a pas été le cas, parce que toutes mes réflexions ont été faussées par un présupposé que j'avais adopté dès le départ. Mon présupposé était celui-ci. Nous étions venus dans ce bois par hasard, c'est moi qui avais proposé d'aller dans ce bois. Donc personne dans ce bois ne pouvait nous attendre parce que personne ne savait que nous allions venir ici. Donc toutes mes réflexions avaient été faussées. La personne en rouge, je connaissais une seule personne au monde capable de s'habiller en rouge vif. Et quand je dis vif, c'est vraiment vif, hein, on n'a pas idée. Une seule personne capable de s'habiller en rouge pour ensuite aller se cacher dans les bois. C'était Sophie, notre amie parisienne. Mais je n'ai pas pensé à elle, parce qu'elle n'avait aucune raison d'être là. Elle ne pouvait pas deviner que nous allions venir. Mon chien ne semblait pas spécialement étonné ou inquiet que des inconnus se cachent. Pourtant, il était formé pour ça. Et j'ai dû inventer une histoire. Bon, il y avait des lapins dans le bois. Sûrement, c'était à cause des lapins. Cathy n'était pas inquiète. J'aurais dû me dire que si elle ne s'inquiétait pas, c'était que pour elle, la situation n'était pas inquiétante. Mais j'ai inventé une raison. Elle ne comprend pas bien ce qui se passe. La dernière personne qui se cachait derrière l'arbre connaissait mon chien. Elle n'a pas eu peur. J'aurais dû me dire que seul quelqu'un qui connaissait très bien mon chien et que mon chien connaissait bien pouvait être derrière cet arbre. Mais là non. J'ai inventé toute une série de hasards, de malchances pour expliquer ce qui s'était passé. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que mon présupposé m'a fait passer à côté d'une information importante qui, dès le début, aurait dû me mettre la puce à l'oreille. C'était le jour de mon anniversaire, et connaissant mes amis et ma fiancée, c'était sûr qu'ils allaient me faire une grosse blague en cette journée. Mais à aucun moment, ça m'a traversé l'esprit. Nos présupposés, lorsqu'ils sont faux, peuvent nous faire tout interpréter de travers, nous rendre aveugles aux évidences et nous faire inventer des choses ou croire des histoires complètement fausses. Notre attention ce matin se portera sur les présupposés qui nous rendent aveugles aux interventions de Dieu en notre faveur. Je vous invite, comme dimanche dernier, à ouvrir vos Bibles en Actes 12. Acte 12, donc un rappel du contexte. Donc, l'apôtre Pierre a été emprisonné par Hérode, qui a l'intention de le faire mourir. La nuit qui précède sa comparution, un ange intervient et libère Pierre miraculeusement. Pierre est donc maintenant dans la rue, et après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte d'entrée, et une servante, appelée Rode, s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. La semaine dernière, nous avons vu que ni Pierre ni Rode ne semblaient s'être préparés à ce que le Seigneur intervienne en leur faveur, et leur manque de préparation avait fait que leur réaction n'avait pas été très appropriée. Mais aujourd'hui, c'est à la réaction des disciples que nous allons être attentifs, et au travers de leur réaction, nous allons voir à quel point nos présupposés peuvent nous masquer la puissance et la bonté de notre Dieu. Acte 12, versets 15 à 17. Ils, c'est-à-dire les disciples, lui dirent « Tu es folle !» Mais elle soutenait que c'était bien vrai. Ils dirent alors « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire et il leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Il ajouta « Annoncez-le à Jacques et aux frères et sœurs. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre endroit. Pierre est vivant et libre. Hérode est débordante de joie. Donc le cœur gonflé, elle court, elle fonce l'annoncer aux nombreuses personnes qui sont dans la maison et qui prient tous ensemble. Alors, essayez d'imaginer un peu une réunion de prière interrompue comme cela. Pierre est là, il est à la porte, il est vivant. Et là, on dit « Alléluia, merci Seigneur !» Sauf que les disciples ne disent pas « Alléluia ». Ils disent « Tu es folle !» Les disciples refusent de croire que Pierre se tient à la porte. Leur incrédulité est quand même étonnante. Verset 5, un peu plus haut de notre passage, il est écrit « Pierre était gardé dans la prison ». Et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Les disciples connaissent le Seigneur et s'attendent à ce que Dieu intervienne. C'est pour cela qu'ils prient le Seigneur. Et ils ne prient pas sans conviction ou mollement. Ils prient sans relâche. Ils prient avec ardeur. Et c'est précisément pour Pierre qu'ils prient. Et pourtant, lorsqu'on leur annonce que Pierre est là, ils disent il faut être fou pour croire cela. Et ils ne se donnent même pas la peine d'aller vérifier. Les disciples ont pour présupposé qu'il est impossible que Pierre ait été libéré par Dieu. Nous avons ici une illustration de ce que nous vivons parfois. Nous savons que Dieu est tout-puissant et qu'il entend nos prières. Nous savons que Dieu peut exaucer nos prières. Dieu a le pouvoir de faire toutes choses. Rien n'est impossible à Dieu. Mais pour certains domaines, dans certaines circonstances, nous sommes convaincus que Dieu ne le fera pas. Moi, j'ai tendance à être un peu comme cela. Il m'arrive de lire un certain nombre de témoignages, et si je lis quelque chose comme « J'ai prié pour avoir la paix, et Dieu m'a donné la paix. » Alors ça, pas de problème, ça je le crois, j'en suis convaincu. Si je lis « Nous avons prié pour lui et Dieu l'a guéri », ça aussi, je peux le croire. Et il y a quelque temps, je disais ceci, c'est un témoignage qui se passait autour d'un concert ou d'une conférence, qui disait « Elle s'était cassée la jambe, Nous avons prié et Dieu a réparé sa jambe. Et en lisant cela, vous savez quelle était ma réaction? Je me suis dit, non, ça j'y crois pas. La jambe ne devait pas être cassée. Mais pourtant, j'ai l'absolue conviction que Dieu peut le faire. Mais en moi, il y a une autre conviction qui me dit, non, Dieu ne ferait pas cela. En tout cas, pas pour un concert ou pour une conférence. Mes présupposés, vos présupposés, peuvent nous rendre aveugles aux interventions de Dieu dans le monde. C'est comme si nous avions des œillères qui nous empêchaient de voir ou d'espérer ce que Dieu accomplit en notre faveur. Les présupposés des disciples les empêchent de croire que Pierre est à la porte. Mais Rode sait que c'est vrai. Elle insiste. Non, elle n'est pas folle. Pierre est bien là, à la porte. Elle est tellement convaincante que les disciples sont convaincus à leur tour qu'elle a vu quelque chose. Sauf qu'ils ne croient toujours pas que c'est Pierre qui est réellement à la porte. Ils pensent, verset 15, que c'est son ange que Rode a vu. Là, il nous faut donner simplement une petite explication. L'ange de Pierre. D'après une croyance populaire juive, chaque homme avait son ange gardien. Et Jésus lui-même a dit quelque chose qui pourrait aller dans ce sens. En parlant des enfants, il a dit en Matthieu 18, 10, « Les anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père. » Alors peut-être, je dis bien peut-être, que Dieu a confié à un ange particulier la tâche de veiller sur chacun d'entre nous. Mais notre passage, en tout cas, ne dit pas cela. Notre passage dit que c'est ce que croyaient les disciples, et nous voyons que ce que croyaient les disciples n'était pas inspiré par le Saint-Esprit, parce que ce n'est pas un ange qui est à la porte, c'est bien Pierre. Nos présupposés qui limitent les interventions de Dieu nous poussent parfois à inventer ou à nous raccrocher à toutes sortes de fausses explications. Pour expliquer ce qui nous semble extraordinaire, nous disons « c'est un concours de circonstances rarissime » ou alors « c'est un phénomène naturel inexpliqué ». Parfois, c'est un mécanisme psychologique profond ou d'autres fois, ça devait être une erreur médicale. Combien de fois, en raison de nos présupposés sur les prétendues limites de Dieu, privons-nous Dieu de sa gloire en inventant et en accordant à d'autres qu'à Dieu la gloire ou la raison de ce que Dieu fait dans sa création? Combien de fois nos yeux sont incapables de discerner l'intervention de Dieu dans ce qui nous arrive? Pour les disciples, un ange, ça devait probablement être discret. Parce que Pierre, lui, au verset 16, il est bien à la porte. Et le pauvre Pierre, si un jour je le rencontre, et qu'il y a un peu de temps, je pense qu'il y aura d'autres questions qu'il faudra lui poser avant, j'aimerais bien savoir comment il a vécu ce moment-là. Mais en tout cas, Pierre, il est à la porte. Il tape. Et les disciples, devant tant d'insistance, finissent par se dire, ah, c'est bizarre ça, peut-être pas un ange. Ils vont ouvrir la porte, et là, ils voient Pierre en chair et en os. Et là, leur réaction, ce n'est pas la joie, c'est la stupéfaction. Un peu comme moi quand mon chien vient avec la balle de tennis. La stupéfaction. Ils ont prié le Seigneur pour Pierre, Pierre libère le Seigneur, et les disciples sont stupéfaits. À partir de ce texte, nous avons vu trois méfaits que produisent nos présupposés qui limitent les interventions de Dieu en notre faveur. Premièrement, cela nous rend aveugles aux interventions de Dieu. Dieu intervient et nous sommes incapables de voir cela. Ou alors, nous attribuons à d'autres choses qu'à Dieu le mérite de ce qui arrive. Nous ne réalisons pas à quel point c'est notre Dieu qui est glorieux. Et parfois, si malgré tout nous sommes obligés d'admettre que c'est bien Dieu qui est intervenu, nous sommes tellement stupéfaits qu'au lieu de nous réjouir, nous restons bouche bée. Quel dommage! Quel dommage que nos présupposés nous fassent passer à côté de tous ces émerveillements, nous fassent rater des occasions de glorifier Dieu et nous privent de la joie de remercier Dieu pour tout ce qu'il fait en notre faveur. Mais il y a aussi trois bonnes nouvelles. La première, c'est que nous pouvons avoir de mauvais présupposés sur Dieu tout en ayant, malgré tout, une foi sincère en Dieu. Même si sur certains points, nous nous trompons sur Dieu, et je pense que c'est notre cas à tous, sur certains points, nous nous trompons sur Dieu. Mais si malgré tout, nous avons foi que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur, alors notre foi est suffisante pour que nous soyons sauvés. Ouf ! Dieu n'exige pas que notre connaissance de lui soit parfaite pour nous sauver. La seconde bonne nouvelle, c'est que nous pouvons être libérés ou débarrassés de nos présupposés sur Dieu. Nos présupposés ne reposent sur rien de solide, rien de fiable. Il n'y a donc rien qui nous oblige ou qui nous condamne à nous cramponner à nos fausses croyances. Et la troisième bonne nouvelle, et je pense que c'est la plus importante, c'est que Dieu lui-même veut et œuvre afin de nous libérer de nos faux présupposés sur lui. Nos faux présupposés nous trompent et nous font passer à côté de qui est véritablement Dieu. Et le désir de Dieu pour nous, c'est que nous le connaissions, c'est que nous l'adorions, lui, tel qu'il est vraiment. Aussi, nous pouvons avoir l'assurance que Dieu va œuvrer pour que nous puissions le connaître, lui, tel qu'il est. Et nous avons besoin de l'aide de Dieu pour que nos fausses croyances sur Dieu soient remplacées par les vérités de Dieu. Nos présupposés qui limitent les interventions de Dieu en notre faveur sont des mensonges qui ne viennent pas de Dieu. Cela vient peut-être de notre éducation, de notre culture. Si nous avons été modelés avec une conception du monde où Dieu n'intervient pas et ne se mêle pas de sa création, alors, en toute logique, nous n'attendrons pas que Dieu intervienne pour nous. Mais c'est faux. La création tout entière demeure et subsiste parce que Dieu intervient constamment dans sa création. Dieu œuvre encore et toujours dans sa création. Mais plus souvent, nos présupposés viennent de notre mauvaise image de nous-mêmes ou de nos expériences malheureuses. Si nous avons une mauvaise image de nous-mêmes, si nous pensons que nous ne sommes pas des gens aimables, alors notre présupposé sera que Dieu ne nous aime pas non plus. Et bien sûr, que Dieu n'interviendra pas en notre faveur. Mais c'est faux. Dieu nous aime et il nous l'a prouvé en s'offrant lui-même à la croix. Nos présupposés sont parfois des mécanismes de défense. Si nous sommes passés par de grandes souffrances, si nous avons déjà eu l'impression que Dieu n'intervenait pas en notre faveur, alors parfois nous pouvons inconsciemment faire le choix d'adopter comme présupposé que Dieu n'interviendra plus en notre faveur. Nous préférons nous dire que Dieu ne fera rien, comme cela, nous ne risquons pas d'être déçus. Tout cela est faux. Dieu veut nous aider à balayer nos présupposés pour les remplacer par la vérité. Voici quatre aides que, dans sa grâce, le Seigneur nous accorde. Première aide, sa parole. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La Bible est la source objective par laquelle Dieu nous éclaire. Au travers de la Bible, Dieu nous dit ce qui est vrai et ce qui est faux, ce que nous devons croire et ce que nous devons laisser de côté. Ce n'est pas au travers des émissions de télévision, des journaux ou de radio que nous pourrons savoir qui est vraiment Dieu et comment il agit. Nous avons besoin d'une source d'information fiable. Et cette source d'information fiable, Dieu l'a mise à notre disposition. Lisons la Bible chaque jour, pas une fois tous les deux mois, chaque jour, et demandons à Dieu de nous éclairer, de nous disposer à savoir ce que lui-même veut nous dire dans notre situation, que Dieu nous parle directement. Deuxième aide, l'Église. Les frères et sœurs que Dieu nous a donnés dans l'Église enrichissent et corrigent le regard que nous portons sur Dieu. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement. Nous avons besoin d'apprendre des autres ce que Dieu accomplit dans leur vie. Partageons les uns avec les autres ce que Dieu accomplit dans nos vies, pour que nous puissions ensemble être encouragés, ensemble être exhortés. Disposons également nos cœurs à écouter et à mettre en pratique ce qui est enseigné dans l'Église. Ne nous privons pas d'un culte, d'un groupe de maison, d'une étude biblique. Tout cela, ce sont des moyens que Dieu a pourvus afin de nous aider à corriger nos présupposés. L'Église est le cadre favorable et sécurisé dans lequel Dieu nous place afin que nous osions abandonner nos présupposés. Parce que cela, c'est quelque chose qui nous fait peur d'abandonner nos présupposés. Troisième et quatrième aide, la prière et le Saint-Esprit. Éphésiens 1, 17. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Par la prière, nous sollicitons l'aide de Dieu pour qu'il balaye en nous nos faux présupposés et qu'il les remplace par ce qui est vrai, par ce qui est juste. Prions le Seigneur pour qu'il nous vienne en aide. Nous avons besoin, je le répète, de l'aide de Dieu pour cela. Et soyons attentifs à l'Esprit de Dieu, l'Esprit au travers duquel Dieu veut nous parler. Pour nous libérer de nos présupposés qui nous empêchent de nous attendre à ce que Dieu intervienne en notre faveur, Dieu nous offre quatre aides. Sa parole, l'Église avec les frères et sœurs, la prière, le Saint-Esprit. Profitons et saisissons cette aide que Dieu, dans sa grâce, nous offre. Amen. J'aimerais prier maintenant. Seigneur notre Dieu, nous vivons dans ce monde et nous utilisons nos yeux, notre intelligence pour comprendre dans quel environnement nous vivons. Mais Seigneur, notre vision, notre compréhension des choses sont très souvent faussées et nous nous trompons sur toi. Et tu vois Seigneur, nos peurs ou les langages que nous entendons autour de nous ont tendance à faire en sorte que nous n'osons plus espérer en toi. Mais toi, Seigneur, dans toute ta parole, tu nous montres que tu es présent, que tu es un Dieu de grâce, que tu es un Dieu présent, un Dieu du quotidien, un Dieu qui s'intéresse à nous. Seigneur, aide-nous en toute chose à savoir saisir toutes les opportunités que tu nous offres pour corriger notre vision sur toi, pour que nous puissions vivre dans ce monde, Seigneur, avec cette espérance merveilleuse qui est la nôtre. Qu'au travers de ta parole, nous puissions être émerveillés de qui tu es, qu'entre frères et sœurs, nous puissions partager, nous encourager mutuellement, que nous soyons fidèles dans la prière et attentifs à ton esprit, pour que nous puissions ainsi, Seigneur, grandir en toi et nous émerveiller, que tu sois un Dieu à la fois si puissant, mais aussi un Dieu si présent dans nos vies. Amen.